yeah, oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Woo!
Avec la traite négrière qui envoie des millions d'Africains à travers le monde, et en particulier dans le sud des États-Unis, le peuple noir est devenu en quelque sorte un symbole de déracinement. Ce que l'on sait moins, c'est que l'émigration des Noirs s'est poursuivie, alors même que ces derniers étaient devenus des individus libres et affranchis du joug des propriétaires de plantations. Dès le début du XXe siècle, 40 ans après l'abolition de l'esclavage dans le pays de l'oncle Sam, des milliers d'hommes et de femmes noirs ont quitté le sud hostile pour rêver d'une vie meilleure dans le nord. Originaire de ce même lieu de cauchemar esclavagiste, le blues a accompagné ce mouvement de population. Dès les années 20, Chicago et Détroit, par exemple, sont devenues des villes de blues grâce à cette migration. Cependant, loin d'être une idylle, la vie des Noirs dans le Nord est éprouvante. Entre des emplois à l'usine correctement rémunérés, mais physiquement harassants, et des métiers de service payés une misère, le peuple noir a connu encore une fois le rejet des élites blanches. Malgré les difficultés rencontrées, déracinement, ostracisme et pauvreté, le musicien de blues a continué à se battre pour devenir aujourd'hui l'une des figures les plus populaires de la culture contemporaine américaine. Well, my home's in the Delta. That bomber's road. Now you know I'm leaving Chicago, and people I show do hate to go. Now you know I'm leaving here in the morning. Won't be back. Well, I know my little baby, this girl don't know what a shape I'm in. You know I haven't had no loving, boy, you know, and God knows when. Now you know I've just been sitting here thinking, wondering where in the world you been. Look out. Come down. I feel like crying, but you know the tears won't come down. You know I got a funny feeling. I'ma have to leave your town. Mm-hmm.
Now you know I just been sitting here thinking, wondering where in the world she been.
Bonjour à tous quand même, bienvenue dans l'émission de The First Time Ahmed The Blues qui est consacrée cette fois-ci à la grande migration. Et d'ailleurs le morceau que l'on vient d'écouter c'était My Home Is In The Delta de Muddy Waters, car lui aussi a quitté le sud pour aller vivre dans le nord. Donc voilà, la grande migration c'est la thématique de l'émission. On va parler en fait, vous l'avez compris, comme Timo l'a expliqué dans l'introduction, du déplacement des Noirs du sud vers les villes du nord. Et beaucoup d'artistes noirs eux aussi ont émigré du sud vers le nord pour trouver des États-Unis, évidemment, pour trouver une vie meilleure. Alors, il y a eu en fait deux vagues dans cette migration noire afro-américaine. La première entre 1910 et 1929, l'année de la crise boursière, où là, 2 millions de Noirs se sont déplacés pour aller majoritairement vers les villes industrielles pour trouver du boulot comme Détroit, Chicago. Mmh. Et ensuite, il y a eu une deuxième période pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'est enfin terminé vers les années 70, là où 5 millions de Noirs ont quitté le Sud, se sont déplacés, ils sont allés là plus uniquement dans le Nord, mais aussi
pas exclusivement dans le Nord, mais aussi dans les
États de l'Ouest du pays. Alors en fait, la première vague de migration, la 1910-1929, c'est celle qui est la plus importante pour dans l'histoire du blues. Et donc en fait, ça, elle a été déclenchée suite à l'abolition en fait de l'esclavage, quoi. Enfin, quelques années après l'abolition de l'esclavage.
Oui, voilà, une date importante dans l'histoire américaine, donc l'abolition de l'esclavage qui était en 1865. Voilà, c'est vraiment un exemple historique, je dirais même sociologique, d'une population brimée, donc notamment dans le sud, hein, qui a été brimée pendant des siècles et qui tente de jouir de sa liberté. Donc c'est-à-dire en 1865, fin de l'esclavage. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans les plantations? Donc on remarque qu'il y a un petit laps de temps qui s'est écoulé entre l'abolition et ces premiers mouvements migratoires qui sont surtout, comme tu l'as dit, qui ont commencé à partir de 1910. Voilà, donc la liberté comme la démocratie est un apprentissage. Les Noirs du Sud des États-Unis ne sont pas devenus libres après l'abolition. En fait, ils ont mis quelques temps à bouger,
à trouver leur place, leur marque, à savoir ce qu'ils allaient pouvoir devenir.
Exactement. Et comment se sont organisées les sociétés du Sud après l'abolition, celles qui étaient les plus grandes consommatrices de main-d'œuvre d'esclaves, en gros, mais aussi les riches plantations qui jusqu'alors bénéficiaient d'une main-d'œuvre très bon marché. Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme d'anomie, comme le dirait Émile Durkheim, un sociologue, soit une forme de dérégulation sociale, une absence de normes communes entre noirs et blancs? Voilà, c'est peut-être ce qui expliquerait ce laps de temps entre 1865 et 1910, c'est-à-dire le moment où réellement les noirs du sud des États-Unis se sont dit « Allez, c'est bon, on y va, on est libre ». Voilà.
Ouais, mais surtout qu'il y avait quand même la guerre de sécession aussi là après l'esclavage, il y avait la guerre, et aussi les blancs eux étaient beaucoup sur le enfin
bien sûr sur, ouais, ouais.
sur la effectivement étaient plus forcément dans les plantations, mais aussi sur les terrains de combat, et donc du coup
c'était une période de grands troubles
exactement
dans le pays tout entier. La société a dû se réorganiser, quoi.
Et notamment d'ailleurs, donc une fois que ces noirs étaient libres, il y a certains États, municipalités qui ont développé les Jim Crow Laws, c'était des sortes d'arrêtés municipaux où par exemple les noirs n'avaient pas le droit d'aller dans tel service à l'hôpital. C'était vraiment la ségrégation pure et dure. Les noirs d'un côté, les blancs de l'autre. Et donc ça, ce nom là, Jim Crow, en fait il vient d'une chanson de 1828. Ouais. Voilà, c'était vieux, ça s'appelait Jump Jim Crow. En fait c'était une chanson chantée par un émigrant anglais, et lui, lorsqu'il se produisait en public, en fait il se noircissait le visage pour jouer le rôle d'un noir du sud profond. Et en fait
sans forcément qu'on sache si c'était raciste ou si c'était juste
du
théâtre, une
le
chanson
Jim Crow,
de geste
exactement, voilà. Et donc en fait ensuite ils ont gardé ce nom-là, Jim Crow, pour en fait, quand on disait Jim Crow dans une conversation, ça voulait dire ségrégation, quoi, tout simplement.
Le corbeau, en plus, c'est ça. Jim Corbeau, enfin, je me souviens, un petit côté humoristique.
C'est ça. Et donc, les Jim Crow Law, elles ont perduré quand même pas mal de temps, jusqu'au Civil Rights de 1964. Donc, c'est pas bon. Si vieux que ça, finalement.
Exactement. Ouais.
Voilà, bah
ouais.
Alors, du coup, pour illustrer ces Jim Crow Laws, on va passer un petit morceau de Led Belly.
Ouais, tout à fait. Donc, c'est le morceau Jim Crow Blues.
Ok, now you're gonna want this Jim Crow Blues, hein? That brings news and makes a man wear out his shoes when he gets in a Jim Crow place. Bunk Johnson told me to. This old Jim Crowism did bad luck to me and you. I've been traveling from toe to toe. Everywhere I have been, I find some old Jim Crow. One thing, people, I want everybody to know. You're gonna find some Jim Crow every place you go. Down in Louisiana, Tennessee, Georgia's a mighty good place to go. And get together, break up this old Jim Crow. Get up now. I told everybody over the radio, make up your mind and get together, break up this old Jim Crow. I'm gonna tell you people something that you don't know. It's a lot of Jim Crow in a moving picture show. I'm gonna sing this verse, I ain't gonna sing no more. Please get together, break up this old Jim Crow.
Jim Crow Blues, un morceau de Led Belly enregistré dans les années 30. Alors juste pour vous dire un petit mot sur les paroles. Donc elles disent, ben il y a une chose que j'ai envie que tout le monde sache, c'est que tu vas trouver du Jim Crow, donc de la ségrégation partout où tu iras, en Louisiane, au Tennessee, en Géorgie aussi. Et en fait, il faut qu'on s'unisse et qu'on les casse là. Voilà, c'est Jim Crow Laws. Voilà ce qu'il dit un peu Led Belly dans ce morceau.
Donc on va revenir sur la première migration, enfin la migration qui nous intéresse, celle qui a eu lieu entre 1910 et 1929, donc 2 millions de personnes déplacées, donc du sud vers le nord. Donc la migration des Noirs à cette époque, elle correspond aux besoins de main-d'œuvre des grands bassins industriels naissants du nord des États-Unis, Chicago, Détroit, New York, notamment l'automobile à Detroit, c'est assez connu.
Motortown.
Voilà, la Motortown, etc. Et voilà, surtout pendant la Première Guerre mondiale, où les industriels du Nord doivent faire face à d'importantes commandes à cause de la guerre, et surtout il y a pénurie de main-d'œuvre suite à l'arrêt de l'immigration européenne. On arrive à un moment clé, donc besoin de main-d'œuvre. Donc on va recruter, on s'est intéressé au recrutement. Donc à l'époque, pas de boîte d'intérim. Il fallait aller directement chercher la main-d'œuvre sur place, donc dans le sud. Donc par exemple, on dépêchait sur place, donc dans le sud, dans les champs, hein, limite, des recruteurs chargés de débaucher des Noirs employés dans les plantations, donc qui étaient immédiatement acheminés par train sur leur nouveau lieu de travail. C'était un besoin assez urgent de main-d'œuvre. Et voilà, on leur promettait une certaine qualité de vie, de la liberté, de l'espoir.
De bons salaires aussi.
Voilà, de bons salaires. Enfin, tout était beau, tout était rose. Et surtout aux grandes dames des propriétaires de plantations qui n'hésitaient pas à réagir de façon assez violente face aux recruteurs. On ramenait certains recruteurs à la gare avec un pistolet dans le dos. Je crois même qu'on les enduisait de goudron et de plumes, comme à la bonne vieille époque du Far West, pour les chasser, quoi. Enfin,
ouais, parce qu'il faut dire aussi qu'à cette époque, les Noirs du Sud, même s'ils avaient été plus esclaves, ils n'avaient pas forcément trouvé de boulot, quoi. En fait, donc le boulot était quand même toujours dans les plantations, même s'ils n'étaient plus esclaves, quoi.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils sont retrouvés libres, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi.
Exactement. Donc on va pas tout changer encore, dans les plantations. Et donc il y avait aussi, donc on envoyait, comme tu le disais, Timo, des agents recruteurs sur place. Depuis les villes du Nord, mais il y avait aussi un journal qui a joué un rôle important, c'était le Chicago Defender, donc un journal du Nord, évidemment. Et en fait, lui, dans ce journal, il y avait des petites annonces. En fait, voilà, on disait, bon voilà, cherche du boulot. Et en plus, ce Chicago Defender, lui, il avait toujours... il a été créé en 1905. Et en fait, ça a toujours été un journal qui a défendu la cause noire. Et d'ailleurs, pour dire, pour la petite histoire, fondée en 1905, mais il paraît toujours...
existe encore.
Toujours aujourd'hui. Mmh. C'est un journal qui avait aussi milité contre les Jim Crow Laws dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, il était interdit, ce journal, dans les États du Sud.
Carrément.
Donc, en fait, c'était aussi des bagagistes, des blacks qui bossaient dans le Nord, qui descendaient en train, qui étaient bagagistes, qui avaient ça aussi genre sous leur manteau et qu'ils diffusaient en catimini auprès des blacks dans les États du Sud. Et en fait, on va parler d'un artiste, Big Bill Bronzy, qui lui a quelque chose à dire sur le Chicago Defender avant qu'on écoute le morceau.
Mais il a connu cette époque et on a retrouvé donc une citation qui illustre bien ce que tu disais. Donc je vous lis la citation. Hein. J'étais dans un endroit qui s'appelait Marigold dans le Mississippi. Il y avait un restaurant avec un Judas à l'arrière. Vous pouvez vous imaginer ce qu'il faisait derrière. Il lisait bien sûr le Chicago Defender. Et l'un d'entre eux faisait le guet à la porte à l'aide d'un Judas. Si un blanc pénétrait dans le restaurant, il fourrait le Defender dans le fourreau, le brûlait et se mettait à jouer aux dames. Ici, il faisait entrer clandestinement le Defender. On appelait un mauvais nègre celui qui avait le cran de faire entrer clandestinement le Defender dans l'état du Mississippi. Big Bill Bronzy.
Et voilà, Big Bill Bronzy, on va écouter le morceau qui s'appelle Black, Brown and White. En fait, le chanteur dit « J'ai aidé à construire ce pays, je me suis aussi battu pour lui. » Et puis là, on me dit « Bon, si t'es blanc, ça va, tu fais l'affaire. Si t'es marron, donc métis, tu peux rester dans les parages. Mais par contre, si t'es black, mec, voilà, franchement, dégage, dégage et dégage, quoi. » Allez, c'est parti, Big Bill Bronzy, Black, Brown and White.
This little song that I'm singing about, people you know is true. If you black and gotta work for a living now, this is what they would say to you. They say, if you was white, you'd be all right. If you was brown, stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. I was in a place one night, they're all having fun. They're all buying beer and wine, but they would not sell me none. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, you'd stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. They went to employ me at office, the number I got in line. They called everybody's number, but they never did call mine. They said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, you'd stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. Me and a man is working side by side. This is what it meant. They was paying him a dollar an hour, and they was paying me 50 cents. I said, if you was white, you'd be all right. If you was brown, stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. I hope built this country, and I fought for it too. Now guess that you can see what a black man have to do. He says, if you is white, she's all right.
brown, stick around. But as you black, oh brother, get back, get back, get back. I hope win sweet victory with my little plying hoe. Now I want you to tell me, brother, what you're gonna do about the old Jim Crow. Now if you's white, she's all right. If you's brown, stick around. But if you's black, oh brother, get back, get back, get back.
Studio Zef
91.1.
The first time I met the blues.
Big Bill, Bronzy, Black, Brown and White. Donc on se posait la question, donc il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à l'usine, qui montaient pour travailler à l'usine, mais il y avait d'autres personnes aussi qui travaillaient dans d'autres types de métiers. Quoi.
Bah oui, il fallait que tout le monde puisse trouver un boulot, notamment les femmes, elles, qui faisaient bah, les boulots les plus simples, femmes de ménage, employées de maison, il n'y avait pas énormément non plus de possibilités. Quant aux hommes, eux, ils étaient portiers, barbiers, coiffeurs et bagagistes. Ils travaillaient dans les trains qui partaient du nord vers le sud, voilà, pour porter les bagages, les monter, les sortir du train. Et on l'a évoqué tout à l'heure, ces bagagistes, là en fait il diffusait le Chicago Defender, voilà comme on l'a évoqué, sous le manteau, parce qu'il était interdit dans le Mississippi. Et ce Chicago Defender avait des annonces d'emploi, il vantait les mérites pour les noirs de la vie dans le nord, mais aussi en fait il y avait des la promotion musicale, voilà, il y avait des articles en disant bon bah tel artiste noir est super bien, etc. Donc en fait grâce au Chicago Defender on pouvait trouver du boulot, mais aussi faire des découvertes culturelles et puis connaître les musiciens noirs qui eux commençaient à gagner leur vie là-haut et qui étaient célèbres. Donc voilà.
Ouais, les morceaux qu'on a appelés donc des titres de blues et de jazz, hein, c'est ce que tu as dit là de ouais. Des Race Records.
Voilà, en fait, le Chicago Defender, comme on l'appelait à l'époque, ce style musical, c'était les Race Records, parce que c'était des blacks. Donc ça peut paraître un peu bizarre pour un journal qui défendait la cause des Noirs, justement, de mettre en avant cette histoire de race, voilà, de Race Records. Mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, quoi, la musique de black.
Parce que les bagagistes ramenaient des disques aussi, c'est ça, Il descendait des disques
aussi dans le journal. Et
enfin, je veux dire, c'était pas un journal musical. La musique n'était pas dans le journal, quoi. Enfin, bref.
Bah, il y avait des articles qui faisaient la promotion d'artistes, mais en effet, comme tu le dis, les bagagistes descendaient aussi des disques dans leur poche, quoi. Voilà.
Ouais, et visiblement, ces fameuses chansons-là, les Race Records, il y a un truc un petit peu rigolo, j'ai envie de dire. Voilà, ces chansons expriment souvent une certaine nostalgie qu'éprouvaient les Noirs exilés dans le Nord, une nostalgie du Sud. Voilà.
Ouais, voilà, mais évidemment, en fait, t'as beau avoir quitté l'enfer, si c'est le pays où, enfin, bon, j'exagère peut-être un peu en disant ça, mais bon, c'est le pays où t'es né, c'est le lieu où t'es né, où t'as vécu, etc. Donc il y a toujours une forme de nostalgie, même si t'as fui la grosse misère. Donc c'est ce qu'ils mettaient en avant dans les chansons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la chanson qu'on a passée au début de Muddy Waters, My Home Is in the Delta, même si là-bas c'était pas terrible.
Exactement, dans ces mêmes.
Même si là-bas c'était pas terrible, c'était le Delta, là. C'est là où elle est sa maison, mais lui maintenant il habite à Chicago. On est toujours nostalgique de son pays de toute façon, que ce soit un territoire ou un pays à proprement parler, quoi.
Donc les années de migration massive entre 1910 et 1929 sont qualifiées comme étant la belle époque du blues, c'est-à-dire que énormément de sujets de chansons datent de cette époque-là, de la nostalgie notamment, tu en parlais, et d'autres choses. Par exemple, voilà, excusez-moi, certains Noirs menaient une vie de nomade, ce qui a permis la diffusion de chansons. Tu parlais de diffusion culturelle. Il y avait beaucoup de Noirs errants dans tout le pays et qui jouaient du blues et qui diffusaient la musique.
Ouais, donc c'était une autre forme de diffusion de cette musique-là. C'était pas exactement la même, en plus, celle que les nomades, comme tu dis, les vagabonds jouaient, et celle qui était déjà développée dans le Nord, dans les villes du Nord, quoi. C'était pas exactement le même blues, c'était un blues plus comment dire des plus roots quoi, des racines celui.
Oui oui, mais au niveau des sujets de chansons de blues, ouais. Voilà des thématiques jusque même aujourd'hui encore, je pense qu'il y a des reprises de blues qui parlent de ça, de cette vie errante, etc. Voilà, ça a été le lieu de beaucoup de créations de sujets de chansons.
Ouais, et donc bah, pour illustrer ça, on va passer un morceau de J.B. Lenoir qui s'appelle Alabama Blues, l'Alabama qui était esclavagiste et ségrégationniste par la suite. Et donc dans ce morceau là, J.B. Lenoir dit mon frère a été pris à ma mère et c'est un officier de police qui lui a tiré dessus et je peux rien y faire, j'arrive pas à faire face. Des fois je m'assois et puis bah je me mets à pleurer, enfin voilà. Donc ouais, ça dépeint un peu la bah voilà comment ça se passait dans cet état là.
Ouais, un morceau qu'on peut qualifier d'engagé aussi.
J.B. Lenoir, Alabama Blues.
I never will go back to Alabama. That is not the place for me. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. You know they killed my sister and my brother, and the whole world let them peoples go down there free. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day, lead my peoples to the land of peace. My brother was taken up for my mother, and a police officer shot him down. My brother was taken up for my mother, and a police officer shot him down. I can't help but to sit down and cry sometimes. Think about how my poor brother lost his life. Alabama, Alabama, why you wanna be so got my people behind a barbed wire fence. Now you're trying to take my freedom away from me.
Donc il y a deux villes qui nous ont particulièrement attirés, enfin quand on a fait cette émission, qui ont conjugué et forte demande de main d'œuvre, donc beaucoup d'immigration. Voilà, donc de migration noire et qui sont devenues des grosses villes du blues. Détroit, qui est un petit peu moins connu pour ça, mais quand même qui est surtout connu pour la Motown, mais il y a eu des bluesmen, on va le voir. Et Chicago, et qu'est-ce qui se passait à Détroit en fait au niveau du taf
On commence à Détroit, donc évidemment toutes les usines automobiles étaient en plein boom, notamment l'usine Ford. La main-d'œuvre noire, c'était une véritable aubaine en fait pour les boss de ces boîtes-là, car d'une part, ils les payaient moins que les ouvriers les Blancs. Et d'autre part, ces Noirs-là étaient réputés pour leur servitude, donc ça leur permettait en fait de contrecarrer les syndicats menés par les Blancs qui prenaient quand même de l'importance. Mais en fait, ce management-là d'Henry Ford de recruter davantage de Noirs pour contrecarrer les syndicats, il a quand même eu des limites, parce que dans les années 30, les Noirs, eux aussi, ils ont commencé à se dire « ça suffit ». Et ils se sont ralliés justement à ces syndicats. Mais ça a quand même duré quelques années. Et en fait, les femmes, elles, comme on l'évoquait tout à l'heure, elles faisaient des petits boulots. Hein, elles occupaient des métiers de service principalement. Et puis, juste pour donner un petit chiffre, en fait, à Détroit, la population noire est passée de 5 000 en 1910 à 100 000 à la fin des années 30. Enfin, c'est énorme, quoi, l'augmentation.
Grosse migration. Et un petit peu plus tard, dans les années 40, donc notamment pour soutenir le gigantesque effort de guerre, reconnu comme le plus grand effort de guerre qui n'ait jamais existé. Donc, faut se remettre dans le bain, l'Amérique divisée entre Pacifique et Europe sur le plan militaire. Donc les usines tournent toute la journée, c'est du 24-24. Donc encore une fois, on puise dans le vivier traditionnel aux États-Unis, donc le Sud. Donc des blacks arrivent par milliers, logent à 10 par pièce chez des connaissances comme ça. On dort même dans la rue, quoi, sur la route. Enfin, des conditions assez terribles. Voilà. On plante des tentes dans la rue, si c'est possible, quoi, sur l'asphalte. Je sais pas comment ils faisaient. Enfin bref, ça c'est mon réflexe de campeur. Et donc les emplois sont nombreux et bien rémunérés, encore qu'on peut apporter un petit bémol.
Mais
peut-être
dans ces villes-là aussi se développent d'immenses ghettos. Et généralement, en fait, c'était avec l'arrivée des massifs des Noirs, en fait, il y avait des quartiers habités par des Blancs qui ont fini par être désertés par ces Blancs-là. Du coup, les propriétaires n'entretenaient plus les maisons parce que les Blancs avaient disparu, les poubelles n'étaient plus ramassées. Et donc, y avait que des Noirs et puis des conditions de vie assez déplorables, quoi.
Oh, Lordy, long. Oh, Lordy, long, it hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many nights since you've been gone, I've been worried and grieving my life alone. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many days since you went away, I had to worry both night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
No, boy, I ain't gonna worry my life no more. Yeah, yeah.
Place I go, how much I love you, nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So that's my story. This is all I got to say to you. Goodbye, baby, and I don't care what you do. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
Studio Zef
91.1.
The first time I met the blues.
Big Maceo Wildlife Blues. On est un petit peu plus tard, en 1941. On est dans la conséquence de la première grande migration qui a eu lieu entre 1910 et 1929. Voilà, dans le cadre d'une population noire installée, avec une culture, des gens qui travaillent, des consommateurs de culture, c'est important. Et on est à Détroit surtout. Et donc là où les Noirs vivent à Détroit, il y a pléthore de lieux pour jouer du blues. Le blues de Détroit est reconnu comme étant un petit peu plus éclectique que celui de Chicago, à l'image du style de Big Maceo qu'on a écouté précédemment. Voilà, il est vraiment nommé le blues de Détroit. Comme on dit le Chicago blues, il y avait le blues de Détroit. Et voilà ce qui est caractéristique à ce blues, à ce style de blues à Détroit, c'est qu'il n'y avait pas vraiment l'appui d'une vraie maison de disques. Il y a un seul bonhomme un peu dans le style de Chess, Leonard Chess, qui s'appelait Joe Van Battle, qui était propriétaire d'un magasin de disques, qui organisait des enregistrements sommaires dans son arrière-boutique. Enfin, ça ressemblait plus à un bric-à-brac avec des fils de partout, des micros, qu'un réel studio d'enregistrement. Mais par contre, il signait tous ces artistes-là, on va en parler. Enfin, il y a d'autres artistes aussi. Donc, il avait les droits, donc il pouvait les vendre à d'autres maisons de disques. Et là, en l'occurrence, Chess Records, par exemple. On a des artistes qui ont joué de Détroit dans les deux villes.
Ouais, exactement. Mmh. C'était un. En fait, pour les artistes de Détroit, ce mec-là, là, John Van Battle, c'était vraiment un tremplin, quoi. On va dire ça.
Un intermédiaire, voilà.
Voilà, c'est ça. Si t'étais produit par lui, t'avais des chances de pouvoir aller jouer dans d'autres villes et d'être connu au-delà de Détroit. Parce que, en fait, c'était quand même.
Une sorte d'agent, quoi.
Ouais, voilà, c'était ça. Et en fait, c'est notamment John Lee Hooker qui a pu percer grâce à ce mec-là, exactement. John Lee Hooker, qui lui est arrivé en 1943 à Détroit. En fait, il n'arrivait pas à gagner sa vie avec la musique, il faisait des petits boulots. Voilà, il était ouvrier à la chaîne.
Encore un mec du Sud.
Voilà, il était surveillant dans les hôpitaux. Et puis en fait, il a fini par enregistrer des titres avec le John Van Battle, là, le fameux. Et c'est lui qui lance la mode du boogie avec Boogie Chillen, et on va écouter ça tout de suite. C'est un morceau de 1948.
Well, my mama, she didn't love me. Yeah, to stay out all night long. Oh, Lord. Well, my mama didn't lie me. Yeah, to stay out all night long. I didn't care if she didn't lie. I was boogie boogie in her house. Come to town, people. I was walking down Hastings Street. I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I decided I'd drop in there that night. And when I got there, I said, yes, people. Yes, they were really having a ball. Yes, I know. Boogie chillin'. I was laying down.
I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie, 'cause it's in him and it got to come out. Well, I felt so good, and I went on boogie woogie just the same. Yeah.
C'était John Lee Hooker, Boogie Chillin'. Alors là, on est à Détroit et puis on va prendre le train direction Chicago, une autre ville célébrissime pour son blues. Et voilà, qu'est-ce qui se passait à Chicago à l'époque? Bah, c'était aussi un endroit où il y avait du travail en général pour tout le monde, donc également pour les blacks. Donc principalement dans les usines manufacturières et un peu plus connues, les abattoirs de Chicago qui étaient gigantesques, qui débitaient des centaines de bœufs par jour. Enfin, c'était assez impressionnant. Et voilà, il y avait plusieurs quartiers noirs, donc le West Side et le South Side. Tout à l'heure, on expliquera les choses, on rentrera un petit peu plus dans le détail parce qu'il y a des choses intéressantes au niveau musical. Voilà, le quartier ouest était considéré dans les années 50 comme le pire ghetto des États-Unis, d'où l'expression française quand on parle d'un endroit, oula, c'est Chicago ici. Enfin, je pense que c'est lié. Et voilà, c'était des conditions assez rudes, hein. On a tendance à, enfin, présenté comme ça, on peut dire que c'était un véritable Eldorado, donc le nord des États-Unis pour les noirs du sud, mais quand même c'était assez rude. Il y a notamment une rue où les jeunes femmes noires allaient chercher du travail pour la journée, un petit peu une genre de boîte d'intérim à l'ancienne, dans la rue, qui a été rebaptisée donc, par les autres communautés blanches ou autres, le marché aux esclaves. Enfin, c'était assez terrible. Voilà.
Ouais, et puis bah, pour parler un peu du développement de la musique, hein, c'est le sujet à Chicago. Là-bas, c'était, y avait pas mal de bars clandestins tenus par les parrains de la Prohibition, où en fait les jazzmen de la Nouvelle-Orléans ou les pianistes de boogie-woogie pouvaient proposer leur musique et leur nouvelle interprétation du blues. Et c'est vraiment à la fin des années 30 que Chicago va vraiment devenir la capitale du blues, avec, on en parlait tout à l'heure, hein, l'arrivée de musiciens comme Big Bill Bronzy qu'on vous a passé, et puis voilà, le Chicago, ça va être c'est pour ça qu'on appelle le Chicago Blues. Voilà, le blues va vraiment se transformer là-bas, et on vous propose d'écouter un petit morceau pour se mettre dedans.
Oui, et juste pour revenir sur le fait que c'est vrai que c'est l'endroit où a été électrifié un certain nombre de musiques, et notamment le blues, ce qui est totalement caractéristique du son du Chicago Blues, en tout cas la guitare, l'harmonica, on a électrifié tout ça et donné quelque chose d'assez rude.
Ouais, fini la guitare classique avec l'harmonica.
Ouais, voilà. Exactement. On est dans l'industrie de la musique.
Allez, c'est parti.
None other than Otis Rush. Let's bring Otis Rush on with a round of applause. For your approval, Otis Rush. There you are. Thank you. Thank you. Well, I can't quit you, baby, but I gotta put you down for a while. Well, you know I can't quit you, baby, but I gotta put you down for a while. You messed up my happy home, baby. You made me mistreat my only child. Yes, you know I love you, baby. My love for you, I can never hide.
I could never hang. Yeah, you know I love you, baby. Well, you know you're my desire. When you hear me moaning and groaning, baby, you know it hurts me deep down inside. Yes, when you hear me moaning and groaning, baby, oh, you know it hurts me deep down inside. Yes, when you hear me holler, baby, well, you know you're my desire.
Joseph
91.1
The first time I met the blues.
C'était Otis Rush, I can't quit you baby. Donc c'est reconnu, il y a deux types de blues à Chicago, donc à peu près dans les mêmes époques, c'est-à-dire voire carrément dans les mêmes époques, fin des années 50, début des années 60. Et donc le West Side Sound, c'est ça, Sound, excusez-moi, qui est
plus soul en fait.
Voilà, plus soul, qui est plus éclectique, encore une fois, notamment avec Cobra, qui est un label qui a été créé par Willie Dixon après avoir travaillé pour Chess, Donc il a un peu pompé les artistes à droite à gauche, puis il a créé son propre label.
Ouais, en fait, chez Chess, voilà, j'étais sûre que ça allait être difficile à dire. Lui, Willie Dixon, c'est quand même, c'était un peu le patron quand même, dans le sens où c'est lui qui recommandait les artistes, qui les modelait un peu, il composait énormément de chansons qu'il faisait interpréter. Et en fait, apparemment, avec ce qu'il reprochait à Chess, c'était de pas faire suffisamment confiance à de nouveaux artistes, en fait. Et voyant que Chess décollait pas forcément, tilté pas forcément quand il amenait un nouveau chanteur ou une nouvelle chanteuse, Willie Dixon, il s'est dit
il a créé son label
exactement avec un mec qui avait du pognon, un parrain apparemment. Le gars connaissait rien du tout à la musique, mais il avait de l'argent à mettre sur la table. Donc voilà, Willie Dixon crée Cobra avec ce mec là
voilà, il savait être très persuasif et il a sorti des artistes comme Otis Rush, dont on vient d'écouter un morceau. Qui reprenait, c'était quand même des succès commerciaux de l'époque. C'était une musique qui était un peu moins axée sur la création, c'était surtout de la reprise. Mais quand même, il y a eu des gens comme B.B. King qui ont joué avec lui et Magic Sam, dont on va écouter tout de suite un morceau. Donc c'est All Your Love, c'est ça ?
Non, c'est Easy Baby.
Ah, c'est Easy Baby. Ok, bon, on écoute ça. Donc Magic Sam, Easy Baby.
I want you to love me easy.
Et voilà, Easy Babe et Magic Sam, le West Side Sound de Chicago. Donc on vous passe un peu un autre type de blues parce qu'on avait fait une spéciale sur Chess. Donc là, c'est vraiment pour signifier qu'il n'y avait pas que Chess, il y avait un autre type de blues en fait, et notamment à travers cette qu'on a découvert, hein, il faut l'avouer, c'est ce label donc créé par Willie Dixon qui s'appelle Cobra. Et par exemple, Buddy Guy a commencé avec Cobra avant de jouer pour Chess, donc il savait flairer les talents, ce vieux Willie.
C'est clair.
Et il a notamment, par exemple, hein, il a enregistré un album, enfin un 45 tours qui s'appelle Sitting and Crying the Blues, grâce à Willie Dixon, donc dans ce label là. Voilà, le West Side Sound, donc à travers ce label-là, Cobra touche directement le public noir. C'est un peu ça l'idée meilleure.
Ouais, exactement, parce que en fait, avant, la musique, le son de Muddy Waters, par exemple, lui, en fait, il touchait plutôt un public blanc et jeune.
Divers, quoi.
Voilà, et c'était en fait, c'était grâce à eux que grâce à ce public-là, en fait, qu'ils gagnaient leur vie. Et là, en fait, grâce au West Side Sound, bah, en fait, c'est une musique qui est là, un Chicago blues fait pour les blacks, en fait.
Ouais.
C'est là le public noir qui permet aux artistes de remonter. On n'est plus obligé de passer par la case blanche, voilà, pour pouvoir se développer et gagner sa vie grâce à la musique, et donc grâce à Willie Dixon en même temps, quoi.
Ouais, on
parlait... qui a dû se faire un paquet de pognon au passage, quoi.
Oui, et puis on parlait de donc maintenant, à l'époque, dans cette époque-là, dans la société américaine, du salarié noir qui travaille et qui consomme et qui est consommateur de cette culture-là. Donc à travers ce label-là, on se rend compte que voilà, ça répondait à une demande aussi qui venait du terrain. Voilà, nous, noirs, black, on veut de la culture noire. Voilà.
Ouais, exactement, c'est ça. Et bah alors du coup, Buddy Guy qui a commencé grâce à Willie Dixon,
On écoute ça, Sitting and Crying the Blues.
Ouais, et d'ailleurs, non, attends, je veux dire qu'en fait, là, c'est pas...
T'as
sitting,
vu un peu, je l'avais bien fait. Hein.
Sitting and Crying the Blues, ça, c'est le morceau de Willie Dixon, parce que lui, évidemment, il était interprète aussi. Mais pour Buddy Guy, c'est Sit and Cry the Blues.
Oh, pardon, nuance, excuse-moi. T'as bien fait de le dire. Voilà, on se quitte avec ces notes de Buddy Guy, Sitting and Crying the Blues. Donc voilà, on peut dire que le Chicago Blues s'est surtout forgé dans les rues et les clubs de Chicago. Et très vite, il a gagné en popularité. Bon, d'abord, dans un premier temps, dans les États-Unis, puis après l'Europe. Particulièrement au Royaume-Uni, on peut voir qu'il y a des groupes comme Led Zeppelin, les Rolling Stones, qui ont repris les titres joués par les artistes de Chicago. Enfin, ça a vraiment marqué l'histoire de la musique.
Ouais, et bon, donc pour conclure, finalement, d'une migration sont nés les Beatles, les Rolling Stones, etc. Voilà, c'est
bah, un courant musical qui a marqué fortement ouais,
la musique du XXe voilà. siècle. Quoi. Ça a été quelque chose énorme, quoi. Voilà, ces mouvements de population par ricochet, ça a dû donner du Mika qu'on écoute aujourd'hui, quoi.
Ouais, je sais pas, ou du. Ouais, je sais pas. Ou
bah,
du...
si, en électrifiant.
Du Shakira, disais, non,
En électrifiant. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, la musique électrifiée, elle est née de là, quoi. Voilà. C'est
oui,
ce qu'on
bien sûr,
aujourd'hui.
Peut-être
bah,
qu'il y avait.
C'est l'évolution.
Bah, il y avait peut-être
quoi.
Un niveau aussi technologique qui était un peu plus élevé dans la même époque, dans le Nord, qui fait que les gens ont pu électrifier les guitares, et puis les gens gagnaient des sous dans le Nord en travaillant. Ils pouvaient se payer des guitares, des micros, des choses comme ça. Voilà.
Exactement. Et bah voilà, bah toute cette émission est évidemment podcastable sur studiozef.fr. Vous pouvez aussi retrouver bah, le titre et des morceaux qu'on a passés. Et puis, bah, voilà.
Et bah, à plus.
Ciao.
Allez, salut.